Alors bonjour René, je suis bien contente de vous rencontrer aujourd'hui pour l'enregistrement de notre épisode qu'on a
Bonjour
fait.
Laetitia, je suis très content de pouvoir partager avec vous aujourd'hui.
Oui, merci. Donc on s'est rencontrés pour préparer un peu notre entrevue aujourd'hui. Mais en fait, j'aime bien commencer les épisodes en demandant à mes invités de se présenter. Je sais que tu as été psychologue et qu'il y a eu un parcours spirituel aussi dans ta vie. J'ai envie de t'entendre en fait sur ton parcours en tant que professionnel et aussi en tant que chrétien. Hein. Raconte-nous un peu ton histoire.
Oui, alors, tout a commencé déjà dans mon jeune âge. Hein, j'étais comme bien des Québécois, né dans une famille catholique. Dès l'âge de 12 ans, je voulais faire un prêtre. Donc, j'étais au séminaire de Valleyfield. Je suis né à Montréal, hein, grandi en banlieue, Châteauguay. Et puis, j'ai été dans un séminaire dès l'âge de 12 ans, pensionnaire. Mais ça n'a pas pris beaucoup de temps pour qu'après ça, j'abandonne l'idée d'être un prêtre. Je suis entré dans une sorte, ouais, je dirais une forme d'athéisme pendant mon adolescence. Et puis, à l'âge de 18 ans, je me suis dit, mais il fallait, là, à la fin du cégep, que je décide, je vais faire quoi? Je vais où à l'université? Je me suis arrêté, je me suis dit, qu'est-ce que j'ai envie de faire dans la vie? J'ai dit, ben, je veux aider les gens. Alors là, j'ai regardé, j'ai dit, la psychologie. Et alors là, je me suis inscrit. J'ai été accepté à l'Université de Montréal. J'étais jeune, à 18 ans. Je dois dire que mes études en psychologie, ça n'a pas été une période facile de ma vie. Même que j'ai commencé à développer ce qu'on appelle le TOC, trouble obsessif compulsif. Et c'était très douloureux. Je pense que c'était influencé par l'enseignement que je recevais, où je commençais à essayer de développer une sorte d'autonomie, de perfectionnisme qui me rendait fou en quelque part, jusqu'au jour où, pendant mes études, à genoux, dans ma chambre, en pleurant, j'ai brandi le poing vers le ciel. Même si j'étais athée, j'ai dit, Dieu, si tu existes, je te hais.
Oh, c'est fort, hein?
C'était très fort. J'étais dans une profonde douleur. Je peux dire, j'ai connu la douleur, la souffrance de la santé mentale à ce moment-là. C'était intensif. J'ai quand même réussi à terminer ma maîtrise à l'âge de 23 ans. Et je réalise bien sûr qu'à 23 ans, je ne maîtrisais pas grand-chose. Je ne savais pas grand-chose sur la vie. J'ai été engagé comme animateur social sur la rive sud de Montréal pour l'implantation d'un centre local de services communautaires qu'on appelle au Québec CLSC, là. Et donc j'étais animateur social et pendant cette année-là, j'ai commencé à réfléchir, mais c'est quoi la vie? Pourquoi est-ce que je vis? Parce que là maintenant, je fais de l'argent, je pourrais m'acheter une maison, me marier, avoir une voiture, deux voitures, une télévision, deux télévisions, des enfants, mais la psychologie n'avait pas répondu à ces questions existentielles. Alors un jour, je prends la décision, OK, je vais partir en voyage un an. C'était la période des hippies qui voyageaient. Hein?
Ah
Mais, ouais.
oui.
Donc, je vais prendre mon sac à dos, je vais commencer par la France, par l'Europe, et là, je me suis fait un itinéraire qui allait me mener plusieurs mois plus tard à Katmandou, au Népal, avec l'idée que j'allais dans les religions orientales, ce qui était populaire à l'époque, trouver la réponse à mes questions existentielles. Voilà qu'en mai 1974, je prends l'avion,
Tout seul.
tout seul, et ça c'est important pour moi. Je voulais avoir besoin de personne parce qu'en psychologie, j'avais cru comprendre que pour être un homme, il faut être autonome,
Autonome.
indépendant, pas besoin des autres. Et le jour où je suis arrivé aux Champs-Élysées, après une nuit sans sommeil dans ce voyage outre-Atlantique, je me suis dit, mais je vais voyager comme ça une année seul. Je pense que j'ai fait la plus grande bêtise de ma vie. Mais j'ai pris mon courage à deux mains. Parce qu'il y avait quand même l'orgueil qu'il fallait que, hé, hey, René, quand même. T'as tout laissé derrière chez toi, tu ne vas pas quand même retourner chez toi. Et j'ai commencé à parcourir la France, la Belgique. Et c'est arrivé à Amsterdam que tout à coup, je rencontre des gens qui parlaient de Jésus de manière que j'avais jamais entendu parler. Une Parisienne qui me dit « René, j'ai lâché la drogue pour Jésus-Christ. » Je pensais qu'elle était folle. Elle me disait d'aller visiter une communauté chrétienne sur des péniches dans le port d'Amsterdam qui chantait, qui louait des jeunes, qui priaient. Mais je ne voulais pas aller là.
Ben oui, vous étiez baigné dans le catholicisme.
Oui, puis après ça,
vous cherchiez.
Oui, puis tout ce qui était religieux, ça ne m'intéressait pas du tout.
Oui.
Et finalement, comme un jour, je lui ai dit, je m'en vais, je continue mon voyage, elle m'a supplié d'aller voir. Alors, je me suis dit, ben, il faut quand même que je sois conséquent. Si je cherche, j'irai voir. Puis, c'est pas ça, je vais aller ailleurs. Et de fil en aiguille, alors, il y avait une communauté de jeunes, style hippie, mais convertis de toutes sortes de pays qui vivaient sur deux péniches et qui lisait la Bible et qui avait changé de vie à cause de Jésus-Christ. Alors j'étais intrigué, commençais à lire la Bible, et c'est là que, en lisant les paroles de Jésus-Christ, un jour, son message sur l'amour, j'ai dit « c'est ça que je cherche ». Et j'ai donné ma vie à Christ. Voilà.
Et vous n'êtes pas allé au Népal?
Jamais été au Népal, jamais suivi. Bon, j'ai été ensuite dans d'autres sortes de pays avec cette organisation qui s'appelle Jeunesse en Mission. Mais je suis resté 6 mois sur les péniches dans le port d'Amsterdam. Et là, moi qui étais psychologue, mon travail, c'était l'entretien des bateaux. Pendant ces 6 mois-là, alors je pourrais en parler longtemps, mais là, je travaillais sur ma vie, sur ma personne, sur mon caractère. Alors, le diplômé en psychologie, là, il fallait qu'il apprenne à vivre les relations. Donc, Dieu a commencé à travailler dans mon cœur et ça a vraiment été un point de départ dans ma vie.
Oui. Un nouveau départ. Puis aussi après, j'imagine, dans votre métier, quand vous êtes revenu, après au Québec, vous étiez formé en psychologie, où vous avez appris à traiter des troubles, et là, vous avez donné votre vie à Jésus. Comment ça a changé, après, votre regard sur la santé mentale, ou même en général, la santé même de la société?
Oui, alors, quand je suis revenu au Québec, donc ça, c'est 16 mois plus tard, alors là, plutôt que de... J'ai tenté... Il y avait une petite communauté à Montréal-Nord, puis comme j'avais été animateur social pour l'implantation d'un centre local de services communautaires, j'ai tenté d'avoir un travail à temps partiel parce que, en même temps, je désirais poursuivre mon cheminement spirituel au sein de cet organisme Jeunesse en Mission, qui est un organisme international et puis appartient pas à une église particulière, mais c'est chrétien. Et puis, j'ai pas trouvé d'emploi à temps partiel. Donc, je me suis consacré entièrement à ce travail au sein de cette communauté chrétienne pour propager la bonne nouvelle. Et 10 ans plus tard, alors que j'étais responsable d'une communauté à Dunham dans les cantons de l'Est, une communauté chrétienne qui existe toujours aujourd'hui, j'ai pris une année sabbatique en Suisse. Avec un ministère qui s'appelle, et que ça existe toujours aujourd'hui aussi, La Barque, à Lausanne, avec un petit groupe chrétien qui font de la relation d'aide et qui ont pignon sur rue dans le centre-ville à Lausanne. Et là, pendant mon stage, j'étais en stage, mon défi, c'était de garder silence et d'être formé par l'équipe qui était là. Et pendant 7 mois, j'ai observé, j'ai appris comment faire de la relation d'aide, mais avec une approche fondée sur Jésus-Christ et la Bible. Et ensuite, j'ai été suivre un cours intensif de 3 mois, toujours près de Lausanne, sur la relation d'aide. Et ça a été un point tournant par rapport à tout domaine de la relation d'aide. Ensuite, je suis revenu au Québec, avec mon épouse, j'étais marié à ce moment-là, deux enfants. Et puis, de retour au Québec, on a commencé à faire des écoles de formation en relations d'aide, mais avec une approche biblique.
Mmh.
Et ce n'est que 20 ans après ma maîtrise, après ma sortie de l'université, que j'ai repris ma licence avec l'Ordre des psychologues du Québec, avec un travail à temps partiel comme psychologue, une approche chrétienne, tout en étant missionnaire, encore jusqu'à aujourd'hui, mmh. avec Jeunesse en mission. Donc, ce point de formation à la barque à Lausanne est un point tournant pour moi, parce que là, tout à coup, je voyais comment c'était possible d'aider les gens, mais avec des nouveaux outils que je pouvais développer, qui m'a amené à écrire ensuite un premier livre là, qui s'appelle « Adopté par le Père pour devenir adulte ».
Oui, c'est ça. Je mettrai les références de vos livres ailleurs, parce que vous n'en avez pas écrit juste un dans le descriptif là, de sous notre vidéo là, de notre entrevue. Donc, allons peut-être un peu plus en profondeur là, sur le propos qu'on va aborder aujourd'hui, l'angle de la guérison.
Oui.
La guérison spirituelle, j'ai envie de dire, en fait, c'est ça qu'on va regarder ensemble aujourd'hui. Qu'est-ce que vous avez à dire là-dessus?
Eh bien, je dois dire que même quand j'ai fait ma maîtrise à l'Université de Montréal, c'était sur la psychologie sociale. Mmh. Je n'ai pas fait une maîtrise en clinique, mais en psychologie sociale, parce que je considérais que c'était important d'aider la personne, mais dans un contexte communautaire, pas juste en isolement. Et donc, tout au long de mon cheminement, j'ai gardé un souci pour la famille. Et ma préoccupation est encore très forte aujourd'hui de voir combien le noyau, la société qui est la famille, était profondément brisé.
Ouais.
Et il y a une citation qui m'a beaucoup accompagné pour comprendre l'importance d'essayer de rejoindre l'individu, mais dans le contexte de la famille. Je vous la lis ici, je l'ai sous les yeux. Un anthropologue britannique du nom de John Unwin
mm-hmm.
a étudié sur une période de 4000 ans, 80 civilisations, qui sont apparus et qui ont ensuite disparu. Il a trouvé que dans tous les cas, la chute de la nation était liée à la désintégration de la famille. Il dit ceci, « Dans la plupart des cas, explique-t-il, la raison, la nation s'est désintégrée, la génération suivante, celle de la décadence du noyau familial. » Alors, quand je regarde le Québec,
oui.
malheureusement, il y a des drames, il y a des brisures et des conflits, qui après conflits, des répétitions de couples qui se retrouvent ensemble, qui se brisent, des enfants dans tout cela. Et j'ai une préoccupation profonde pour l'avenir du Québec, avec ce genre d'études oui. de l'anthropologue, me disant, mais qu'est-ce qui va arriver dans notre province? Donc, mon approche qui veut être globale, de oui. regarder le besoin de guérison des individus, et je fais beaucoup de relations d'aide individuelles, mais aussi en comprenant cette dimension collective qu'il y a quelque chose qu'on veut faire pour influencer la société québécoise.
Mm-hmm. Puis ce serait quoi la réponse de Jésus par rapport à ce constat-là que tu nous partages, puis qu'on voit dans beaucoup de pays occidentaux, hein, un mariage sur deux se solde en divorce, ça serait quoi là?
Bon, d'une part, je pense que c'est ça. Dieu veut toucher l'individu mm-hmm. en profondeur pardon, pour sa guérison personnelle, pour ensuite qu'il puisse être plus à même d'entrer en relation avec les autres.
Ouais.
Par exemple, je prends une gorgée d'eau là. Par exemple, quand je vois des couples en relation d'aide, d'une part, on peut regarder quelle est la dynamique qu'ils vivent les deux ensemble, mais je m'intéresse beaucoup à l'histoire de chacun. D'où viens-tu? Qu'est-ce qui t'a construit ou qui t'a démoli dans ta vie? Quel était ton vécu et en particulier ta relation avec ton père terrestre? Parce qu'on a des auteurs québécois dans le monde séculier, comme Guy Corneau, par exemple,
oui.
qui a écrit le livre « Père manquant, fils manqué ».
Oui.
Un livre très intéressant où il exprime le fait que manquer de père pour le fils, c'est manquer de colonne vertébrale. Son identité est atteinte. Et il exprime les différents symptômes qui ressortent de ça. Même chose pour la fille. Il y a Monique Brion, une psychologue du Québec, qui a écrit le livre « C'est pères qui ne savent pas aimer, c'est femmes qui en souffrent.
Mm. »
Pour souligner le fait que l'identité, de la construction de l'identité d'une personne est fortement influencée par la sorte de relation avec leur père terrestre.
Ouais.
Et puis, la Bible nous présente le fait qu'on a un père.
Avec un grand P.
Avec un grand P. Et là, dans le Québec, c'est sûr qu'on fait face à toutes sortes de faux concepts sur Dieu. Avec notre arrière-plan, un Dieu exigeant, un Dieu sévère, un Dieu absent, un Dieu vengeur, ou un Dieu qui est parti ailleurs. Donc, déjà là, il y a un énorme défi dans notre Québec qui, aujourd'hui, a évacué complètement Dieu parce que, dans les années 60, avec la Révolution tranquille, on a jeté le bébé avec l'eau du bain. Parce qu'il y a eu une oppression, malheureusement, par l'Église institutionnelle catholique qui faisait que les gens ont voulu s'en débarrasser, mais en même temps, ils ont évacué l'idée d'un Dieu créateur, d'un Dieu aimant, d'un Dieu présent et tout.
Puis d'un Dieu auquel on peut avoir accès par nous-mêmes, en fait.
C'est ça, accès par nous-mêmes. Puis là, c'est intéressant, j'aime beaucoup ce passage, où Jésus dit « Je suis le chemin, la vérité, la vie. » Et là, il dit « Nul ne vient au Père que par moi. » Et un auteur a dit « Jésus est le chemin, la destination, c'est le Père. » Et on a tous besoin d'un Père. Et quand on devient adulte, il est trop tard. Il y a des gens qui espèrent, qui espéreraient que leur Père, même devenu adulte, fasse quelque chose. Parce qu'ils portent des blessures ou toutes sortes de choses comme ça. Mais non, c'est inutile. Mais quand on s'arrête et on dit « Mais je viens d'où? Pourquoi est-ce que je vis? » Et qu'on considère le monde invisible.
Mm-hmm.
Hein? J'aime bien la chanson de Jerry Boulet, ceux qui connaissent Jerry Boulet, qui disait « Aujourd'hui, je vois la vie avec les yeux du cœur, je suis plus sensible à l'invisible, à ce qui se passe à l'intérieur. Mmh. » Il y a toute une dimension spirituelle à laquelle, si on s'ouvre vraiment, on va découvrir un Père aimant qui veut nous adopter.
Donc, on aurait une double paternité.
Double paternité. Et je veux raconter quelque chose que j'ai vécu personnellement.
Oui.
Ouais. Mmh. J'avais 43 ans. J'étais dans le service missionnaire et tout. J'en ai 75 aujourd'hui, là, pour ceux qui se demandent, qui m'écoutent. J'avais 43 ans et puis, donc, je marchais avec Dieu, tout ça. Et j'avais vécu des changements, mais il y avait quelque chose qui m'embêtait. J'avais comme une lutte avec un sentiment d'infériorité. Je ne savais pas d'où ça venait, pourquoi, mais je vivais ça. Certains complexe d'infériorité. C'était pas intense, mais c'était, comme on dit au Québec, ça m'achalait.
Oui.
T'sais? Jusqu'au jour où je me retrouve dans une conférence à Montréal avec un psychologue des États-Unis maintenant à la retraite. Certains l'ont peut-être connu, Larry Crabb, il a écrit plusieurs livres. Et puis, le thème de cette rencontre, c'était la masculinité. Mon épouse était avec moi, dans un bâtiment d'église, il y a 600 personnes à peu près. Puis voilà que Larry Crabb raconte la relation père-fils. Et le père qui dit à son fils, puis là, on peut faire aussi pour la fille, la même chose. Le père dit à son fils, « Mon fils, je crois en toi, je suis fier de toi, je t'aime, t'es capable. » Et voilà que j'entends ça et que j'éclate en sanglots. Mon épouse se tourne vers moi et dit, « Ça va, René? » Et au travers de mes sanglots, je dis oui, oui, ça va, ça va. Qu'est-ce qui s'est passé? Tout à coup, alors que j'entendais ces paroles-là, je réalisais le silence de mon père. Mon père était, comme bien des pères québécois de l'époque, un bon père, fidèle, pourvoyeur et tout, mais qui n'avait pas la facilité de communiquer l'affection, la tendresse. Et j'en ai jamais voulu à mon père. Mais tout à coup, j'ai réalisé que le silence était une blessure.
Oui, les hommes pour moi... de peu de mots.
Oui, c'était parce que chaque être humain, garçon ou fille, on a besoin d'être nourri de paroles, d'affirmations, d'encouragement. Et il y a une phrase que, par rapport à ça que j'avais déjà entendue qui disait « Tu ne te découvriras jamais en toi-même, tu te découvriras toujours dans la relation.
Ouais. »
Alors, quand un père dit à son fils ou à sa fille « Tu es capable, je suis fier de toi, tu es belle, tu vas aller loin dans la vie », l'enfant entend ça, il se découvre au travers de cette relation-là.
Et puis il est validé dans une identité.
C'est ça.
Et à défaut de mots, en effet.
C'est ça. Donc ce jour-là, pourquoi j'ai dit à mon épouse que ça allait bien alors que j'étais dans cette... Ouais. C'est parce que je savais théoriquement, mais là, pratiquement, je recevais une révélation dans mon esprit, dans mon cœur, d'où venait ma blessure, d'où venait mon complexe d'infériorité, manque d'affirmation, mais qu'en même temps, étant donné que je connaissais... Dieu comme un papa, la Bible nous parle d'Abba Père, hein, dans l'intimité, que mon Père céleste prenait la relève.
Oui.
Il m'affirmait en me disant, René, moi je crois en toi. Tu es capable, etc. Et ça, bien sûr, pour ceux qui nient complètement la présence de Dieu, mais là, je suis dans le domaine de la folie peut-être pour les gens qui ne croient pas du tout en ce genre d'expérience-là. Mais pour moi, c'était très réel parce que je pense que chaque être humain, on a un esprit et qui a besoin d'être visité. Et que moi, j'étais très rationnel avant. Il fallait que je saisisse les choses rationnellement. Mais progressivement, j'ai découvert qu'on avait tous une intelligence spirituelle qui méritait d'être réveillée pour réaliser qu'il y a un monde spirituel, il y a un monde invisible, mais très réel.
Oui.
Alors cette guérison-là, ce jour-là, était vraiment authentique et réelle pour moi.
Oui, et puis on a besoin aussi de d'une nourriture, en fait, spirituelle. L'amour du Père, comme vous disiez tantôt...
Oui, c'est ça. Puis, une autre citation un peu choquante. Et choquante et pour les psychologues et pour les pasteurs. Et c'est un docteur en France qui a été cité dans un livre et qui disait ceci, en comparant les deux, en comparant les psychologues et les pasteurs. Puis là, je ne veux pas insulter personne, mais je veux défier les gens. Il disait, les deux, c'est comme des pompiers. Un psychologue va s'approcher tout proche du foyer d'incendie, il ne sera pas capable de l'éteindre. Un pasteur aura un puissant jet d'eau, mais tellement loin du foyer d'incendie qu'il ne pourra pas l'atteindre. Et la leçon de cela, c'est que quand on a une foi en Dieu, dans la parole de Dieu, en Jésus-Christ, etc. Mais on doit développer certains outils pour s'approcher de la souffrance et de la douleur d'une personne. Je donne l'exemple encore pour les couples qui viennent, qui ont des problèmes. Moi, je dis aux couples, vous transportez dans votre vie de couple votre bagage individuel. Votre histoire est importante. Alors, d'où viens-tu? Qu'est-ce qui t'a construit, t'a démoli, qui fait que dans ton couple, tu ramènes tes problèmes et qui ne vont pas se régler juste avec des techniques de communication, mais en comprenant ton histoire pour que tu sois guéri dans ton histoire. Alors que, malheureusement, souvent, dans l'Église, on vient avec des formules comme « ben, il n'y a qu'à pardonner, il n'y a qu'à confesser tes péchés ». Et c'est un simplisme qui peut être déroutant. Je ne suis pas contre le pardon, c'est important. Puis même en psychologie, on croit au pardon, psychologie séculière, on y croit. Mais la souffrance, la douleur, il faut s'en occuper. Et ce n'est pas si simple que ça. Mais de pouvoir dire, j'ai eu mal. Et là, il y a un autre défi. Tu permets que je continue là-dessus?
Bien sûr,
oui. Parce que on sait très bien qu'il y a le mécanisme de défense du refoulement. Hein? Quand on souffre, on ne sait pas quoi faire avec, on refoule, on garde ça en dedans. Et on sait qu'il faut que ce qui a été refoulé, à un moment donné, ça sorte. Hein? Parce qu'autrement, ça crée des douleurs, ça crée des souffrances. L'amertume est autodestructrice. Mais le défoulement, moi, je me rappelle, en parlant maintenant, je me rappelle d'avoir vu une scène en vidéo de prisonniers qui allaient se préparer maintenant à être réhabilités pour entrer dans la société. On les avait mis dans une grande pièce avec des matelas contre les murs. Puis là, on leur disait, par exemple, ça c'est ton père, attaque le matelas. Et là, la colère sortait, on détruisait même à main nue des matelas. C'était une scène terrible. Mais est-ce qu'on peut croire que ces gens-là, en faisant ça, étaient guéris? Pas du tout. Parce que c'est comme un puits artésien, ceux qui connaissent les puits artésiens, ben la pompe, elle vide le puits, puis après ça, ben il faut que l'eau revienne encore. Mais c'est la même chose avec la colère, l'amertume. Si on ne règle pas ça à la source, eh bien, la colère va revenir. Le refoulement, le défoulement ne règle pas. Mais alors, on va me dire, mais René, quelle est la différence avec ton approche en relation d'aide? Et c'est là que la foi vient, c'est là que le domaine spirituel vient, c'est une question, j'y crois ou j'y crois pas.
Oui.
Mais il y a un texte dans la Bible qui dit, dans Ésaïe 53, ça dit, en parlant de Jésus, c'est une prophétie 700 ans avant qu'il vienne sur la croix, qui annonçait, sur la croix, ça dit, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Donc, ce psychologue proche du foyer d'incendie, dans sa lance, il a besoin de découvrir qu'il y a une offre, qu'il y a une réponse qui existe pour la guérison des cœurs blessés. C'est le fait de pouvoir déposer, au lieu de refouler, se défouler, on peut déposer en racontant à celui qui a souffert avec nous le mal qu'on nous a fait. Et ça, bien sûr, pour ceux qui m'écoutent et qui veulent s'ouvrir à cette spiritualité, ben j'espère qu'ils pourront découvrir qu'il y a une offre unique qui est centrée sur la croix de Christ. Pourquoi est-il mort sur la croix? Pour nos péchés, oui, nos offenses, nos fautes, nos erreurs, mais aussi pour nos douleurs. Et qu'il a pris pas juste le mal que j'ai fait et les souffrances à cause du mal que j'ai fait, mais mes souffrances à cause du mal qu'on m'a fait. Parce qu'on a été aussi victime. Et tout ça peut être raconté, et c'est dans cette démarche-là qu'on peut vivre une guérison.
Donc, dans votre bureau, donc quand vous recevez des couples, par exemple, qui ne vont pas bien, comme vous dites, qui ont eu un vécu avec leur souffrance, concrètement, ce que vous venez de dire, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez, pour les amener à déposer plutôt que refouler ou se défouler, vous allez prier, ça va être quoi la médecine, là?
Oui. Alors, chose certaine, et puis ça, c'est une déformation. Une des choses qu'on m'a enseigné quand j'étais à la Barque à Lausanne, mon mentor, il disait, il n'y a pas de schéma.
Oui, mais pas de... Oui.
Donc, entre autres, il faut tenir compte, mais quelle est la conception que la personne à qui je parle a de Dieu, le Père? Souvent, on va projeter sur le nom de Père, le Père qu'on a eu.
Oui.
Donc, je ne peux pas juste présenter une formule. c'est un cheminement, c'est un processus qui va demander une nouvelle compréhension de la vérité concernant qui est le Père. Et quand Jésus a dit « qui m'a vu a vu le Père », alors là, c'est la révélation ultime, parce que Jésus, il était un bon berger, il était doux, il accueillait les enfants, il était bon, il était juste, il était contre les religieux, et tout ça. Donc, de redécouvrir la personne d'un Père aimant, qu'il est compatissant, c'est ce que la parole dit. Il souffre avec ceux qui souffrent. Mm-hmm. Et ça, entre autres, quand moi je dis que Dieu est un Dieu qui souffre, même dans le monde chrétien, les gens ont de la peine à recueillir ça. Quoi? Mm-hmm. Le Dieu Tout-Puissant souffre? Donc, mm-hmm. il y a toute une éducation à faire.
Oui.
Tout un cheminement. Puis après, c'est d'expliquer, mais à la croix, il s'est passé ça. Et d'aider la personne à ce moment-là, dans le processus, c'est souffre vraiment de dire, OK, maintenant, je comprends. Je veux me laisser consoler, parce que la Bible parle que le Père est consolateur. Je veux me laisser consoler, alors je vais ouvrir mon cœur et raconter le mal qu'on m'a fait. La guérison des souvenirs. Raconter l'histoire, les souvenirs.
Les traumatismes.
Les traumatismes, la violence ou le silence, ou les choses qu'ils ont profondément blessées, les raconter pour être consolés. Et dans ce processus de consolation, à ce moment-là, on vide son cœur, la guérison se fait, puis après ça, d'inviter la personne à recevoir les paroles de vie, ce que Dieu veut lui révéler. Voici qui tu es vraiment. Tu es mon fils, tu es ma fille, bien-aimée. Donc là, il y a une reconstruction. Mais mm-hmm. vous comprendrez bien que c'est un processus.
Oui.
C'est pas une méthode.
Non.
C'est un processus, mais avec tout ça en filigrane, si on peut dire, comprendre, c'est un peu le contexte dans lequel j'essaie d'accompagner les gens.
Oui.
Quelqu'un a dit, je mm-hmm. le cite ici, il faut que la souffrance aille en quelque part. Si elle ne va pas à Dieu, elle ira tôt ou tard à celui qui nous a offensés dans la colère, la maîtrise. Ou alors il nous rendra malade.
Ouais. Ouais, ce qu'on appelle la somatisation ou alors l'agression avec.
C'est ça.
Attaquer l'autre avec notre souffrance.
Exactement.
Et dans les couples, c'est un terreau facile qu'on peut se blesser avec le réveil des blessures.
Hein. Oui, tout à fait, tout à fait.
Donc, mettre Dieu au centre d'une relation amoureuse, ça peut être salutaire, en fait.
C'est sûr que pour qu'un couple veuille vraiment travailler à sa croissance, à la résolution de conflits, il faut que le couple ait le même objectif, c'est-à-dire le même désir de marcher dans l'amour. Et puis, qu'il veuille se faire aider pour se libérer de pulsions de colère ou de d'égocentrisme et tout ça. Mm-hmm. Donc, il faut qu'il y ait une même intention. Puis à ce moment-là, ben, on peut travailler ensemble la croissance.
Là, on a parlé un peu de la guérison individuelle dans le couple. Et par rapport à la guérison, on pourrait dire collective, qu'est-ce que tu aurais à dire là-dessus, sur ça, sur la guérir nos sociétés, comment Jésus peut intervenir à ce niveau-là?
Oui. Alors, quand on regarde comment Jésus a vécu sur la terre, il avait une mère, son père probablement décédé, on ne parle plus de Joseph quand Jésus entre dans son ministère. Mais il avait des frères et des sœurs.
Oui.
Marie, quoi qu'on en pense, elle a eu plusieurs enfants, la Bible montre. Et un jour, on dit à Jésus, qui était avec il prêchait avec ses disciples et tout, il dit, il y a ta mère qui est là, puis tes frères et sœurs qui viennent. Puis Jésus se tourne vers les autres et dit, voici qui sont mes frères, mes sœurs, ma mère. Et même que Jésus va dire, je ne suis pas venu amener la paix dans le monde, mais la division, parce qu'il y aura division dans les familles aussi. Mm-hmm. Et puis, je le vis moi-même dans ma propre famille, que ça crée des divisions. Lorsque on choisit de suivre Jésus-Christ, il y en a qui sont anti. ou qui sont indifférents. Ou... Donc, mais quand on parle, tu aimeras le Seigneur ton Dieu, tout ton cœur, ton âme, ta force, ta pensée, ton prochain comme toi-même, Dieu est communautaire. Dès la Genèse, il n'est pas bon que l'être humain soit seul. Ça parlait du mariage, peut-être avec Ève qui allait naître, mais pour moi, ça parlait aussi de la communauté. On peut être un célibataire, mais accompli, mais chaque personne a été créée pour la relation.
Ouais.
Et pour la communauté. Et lorsque une famille biologique, les familles biologiques qu'on voit sont brisées, avec beaucoup de blessures, la guérison des individus va faire que Dieu veut créer une nouvelle communauté. Et un des défis que je vois dans notre province de Québec, entre autres, c'est l'individualisme et le matérialisme. Et il y a beaucoup de solitude, beaucoup de gens qui souffrent de solitude. Mais Jésus a dit une chose avant de partir, qu'il allait faire. Il dit « Je bâtirai mon Église ». C'est-à-dire quoi? Je ne veux pas bâtir une institution. C'est ça le problème souvent.
Oui.
On a institutionnalisé la vie chrétienne. L'Église est devenue un bâtiment. On dit même « Je vais à l'Église ». On fait notre petit devoir de chrétien le dimanche et tout le reste de la semaine. Ben, il n'y a plus rien. On va faire peut-être une heure de route pour fréquenter une église, mais pendant le reste, où est la communauté pendant le reste de la semaine? Donc, moi, je préconise énormément la création de nouvelles communautés, de familles spirituelles, en pensant aussi que c'est la stratégie de Dieu pour guérir notre province, par exemple. Moi, je suis un rêveur un peu. Moi, je rêverais de voir des milliers de petites églises de maisons, communautés chrétiennes, partout dans la province de Québec, où les gens vont apprendre à partager, à s'aimer les uns les autres, à porter les fardeaux les uns les autres. Parce que dans le Nouveau Testament, dans les écrits de Paul, il y a énormément de « les uns les autres ».
Oui.
Aimez-vous les uns les autres, portez les fardeaux les uns les autres, priez les uns pour les autres, le partage. Mais on a tout un défi parce qu'on est devenu très individualiste, et même dans l'Église, on est très individualiste aussi. Mais c'est mon rêve, de voir au Québec un Québec qui serait guéri par des gens guéris dans des communautés chrétiennes de guérison.
Oui. Puis là encore, en fait, on parlait tout à l'heure des personnes qui ont des blessures au niveau individuel, mais au niveau collectif, au Québec, il y a eu beaucoup d'abus de la part de justement l'Église catholique et tout ça, et ça a marqué beaucoup les gens, et il y a eu un rejet de cette Église-là. Et tu parlais des églises de maison. Peux-tu en parler un peu plus de ce que c'est, en quoi ça consiste oui. Ces églises de maison.
Oui, alors, donc mon épouse et moi, on chemine depuis maintenant à peu près, je dirais, 17 ans dans ce concept-là, avec une interruption de 3 ans, mais avec le désir, après avoir vécu toutes sortes de difficultés dans une église plus institutionnelle, où j'étais comme pendant 7 ans ancien dans une église évangélique, mais à la recherche... un jour à la recherche de la simplicité. Comment vivre l'Église simplement? Et dans les Actes des Apôtres, les églises, au début, c'était dans les maisons.
Oui.
Ils partageaient la nourriture avec simplicité de cœur. Il y avait de l'enseignement et tout. Alors, c'était comme une recherche, une remise en question. Puis, on a vécu différentes expériences. Et tout de suite, je dirais à ceux qui m'écoutent, ce n'est pas la panacée, ce n'est pas la solution miracle. Parce que dès qu'on se retrouve à deux personnes, on risque d'avoir des conflits. Alors, si on s'imagine de vouloir vivre relationnellement, à proximité, avec Jésus-Christ au centre, dans des petits groupes de 10-12 personnes, ce n'est pas nécessairement le ciel sur terre, parce qu'on a toutes sortes de personnalités.
Oui.
Donc, c'est un défi. mais je préfère vivre un défi relationnel pour être authentique, débarrassé de structures qui parfois deviennent lourdes mm-hmm. à porter et impersonnelles pour essayer de vivre l'authentique. Mm. Et le défi que moi, mais je vois dans l'église de maison maintenant, qu'on vit toujours, mon épouse et moi, c'est le défi de l'engagement. Mm. Est-ce qu'on est prêt à s'engager les uns envers les autres? Est-ce qu'on est prêt à considérer que l'église, ce n'est pas la rencontre une fois par semaine? C'est 7 jours/semaine
oui.
où on a sur notre cœur nos nouveaux frères, nos nouvelles sœurs, mm-hmm. avec un Père céleste et Jésus, un grand frère. Donc, c'est un apprentissage, c'est un défi et c'est une nouvelle culture.
Oui.
Et ça demande de l'enseignement par rapport à ça. Et c'est ça, c'est de pouvoir redécouvrir l'authenticité, la simplicité de l'Église, tout en étant en relation, à, mm-hmm. pas dans un petit cercle fermé, parce qu'un petit cercle fermé, c'est dangereux aussi, là. Mais on va être en relation avec toutes les autres expressions du corps de Christ,
mm-hmm.
dans notre ville, puis même dans notre province, avoir un esprit ouvert
mm-hmm.
à l'ensemble du corps, mais en voulant vivre à petite échelle quelque chose d'authentique. Et ce n'est pas un groupe social non plus, parce que c'est orienté autour de la parole de Dieu.
Oui.
C'est un essentiel.
Oui. Ah, c'est très intéressant. Très intéressant. Je ne connaissais pas.
Oui. Je suis en train d'écrire un livre sur ce sujet-là.
Ah oui?
OK. Oui, oui. Je ne sais pas s'il sera publié, mais je suis vers la fin de l'écriture sur l'Église. Ouais.
Ah, OK. Bon, on mettra la référence du livre. Si c'est un format PDF ou un livre publié, on le mettra dans le...
C'est gentil, oui, merci.
Dans le descriptif. On achève bientôt notre rencontre, René. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais dire pour compléter le message d'aujourd'hui pour nos auditeurs?
Oui, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, j'étais très rationnel. Hein? Il fallait que tout passe par mon raisonnement. D'ailleurs, j'écris un des livres que j'écris, c'est « Soyez transformés en profondeur. Dites non à la manipulation par vos pensées et par vos émotions. » Pour dire que je vais encourager tout le monde à considérer le fait qu'il y a des choses qu'on peut comprendre qui sont au-delà du raisonnement logique, mais qui sont vraies. Et quand Jésus a dit « Vous connaîtrez la vérité vous rendra libre », il ne parlait pas d'une connaissance intellectuelle, mais d'une connaissance spirituelle intime. Donc, quand on ouvre la Bible, qu'on lit les paroles de Jésus-Christ, on veut lire en étant ouvert au fait qu'on a un esprit aussi. Par exemple, la conscience.
Mm-hmm.
Chaque être humain a une conscience. Du bien et du mal. On peut la faire taire en vieillissant, mais au point de départ, on en a une. Mais ça vient d'où?
Mm-hmm.
C'est dans notre esprit.
Oui.
On a besoin d'ouvrir notre esprit parce que quand on est question de qu'on a un père, l'Épître aux Romains dit « L'esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. » Et comment je l'explique, cette expression-là, c'est vient un point où je sais que je sais que je sais.
Mm-hmm.
Personnellement, je sais que le monde a été créé par un Dieu créateur. Ce n'est pas rationnel, mais j'en suis convaincu. D'où vient cette conviction? Révélation dans mon esprit. Je sais que Jésus-Christ, et ça c'est prouvé scientifiquement aussi, là, qui est vraiment venu, là.
Oui.
Peu importe ce qu'on pourrait dire,
oui.
Mais je sais que aujourd'hui, parce qu'il est mort sur la croix il y a 2000 ans, je suis pardonné pour mes péchés et je suis guéri pour mes blessures. C'est spirituel, cette conviction-là.
Mm-hmm.
Mais on peut réaliser qu'il y a des choses auxquelles on croit qui ne sont pas rationnelles, mais qui sont vraies. Et c'est mon souhait pour les auditeurs, qu'ils puissent vraiment s'ouvrir à des réalités mm-hmm. spirituelles.
Ouais.
Comme Jerry Boulet pouvait le chanter ouais. Dans son chant.
Oui, puis que la vérité, quand on la demande, elle nous est révélée. aussi, comme on voit beaucoup dans les informations, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux.
Ouais, ouais.
On peut avoir accès à savoir si c'est vrai. On peut prier pour que la vérité nous soit révélée.
Tout à fait.
Dans toutes les informations qu'on peut recevoir, que ce soit sur Jésus ou sur d'autres choses.
Oui, absolument, ouais. Absolument. Cherchez, vous trouverez, dit Jésus, là. Oui, ouais, tout à fait.
Oui.
Ouais.
Que dirais-tu de faire une prière pour conclure, justement, sur notre échange, à moins qu'il y ait d'autres choses que...
Non, c'est bien, avec plaisir. Ouais. Eh bien, merci que tu es notre Père, que tu nous as voulu, tu nous as créé, et tu as envoyé Christ pour venir, comme dit ta parole, nous délivrer du présent siècle mauvais, nous libérer. Et moi, je prie pour que ce qui a pu être dit aujourd'hui puisse interpeller, toucher des cœurs, donner de l'espérance du fait que quand Christ a dit « Le voleur vient pour voler, égorger, détruire, mais moi je suis venu que vous ayez la vie, et la vie en abondance, et bien qu'il y ait une espérance que c'est vrai. » Et quand toi, Jésus, t'as dit à la Samaritaine, « J'ai une eau que tu vois boire, et tu n'auras plus jamais soif. » Je prie que ceux qui ont faim et soif puissent être désaltérés, rencontrés, visités par ton esprit dans le nom de Jésus. Amen.
Amen. Merci beaucoup, René.
Grand plaisir, Laetitia. Merci pour ce temps.